Sur les bancs, la France était défaite et l'on brûlait les Tuileries. Charles écrivait à Nasenael, « Je ne savais pas qu'on pouvait se sentir si misérable. Je ne peux pas imaginer que d'autres ont connu cela avant moi, mais Nasenael était parti sans laisser d'adresse, et sa famille ne savait pas où le trouver. Il parlait à Florence et cette habitude ne cessa pas. Les Versaillais écrasèrent la commune. La paix revint et Charles ne put guérir. Il vendit la fabrique et acquit le fonds de librairie de la place Saint-Sulpice. Désormais plus d'efforts, se disait-il, attendre la fin simplement. En compagnie de Florence disparue, il redevenait un petit garçon rêveur. Le soir, il lui semblait l'entendre, elle lui parlait doucement pour le consoler, lui racontait des histoires. Son beau-père vint lui acheter des livres, il feuilletait, ne parlait pas et s'en allait avant de pleurer. La vie revint peu à peu mais trop tard. Charles-Pierre avait à moitié disparu. Un soir, longtemps après, au début de l'hiver, il s'apprêtait à fermer quand on passa la porte. Le visiteur s'assit, posa son chapeau près du fauteuil et sourit. C'était Nasenael. Ils se regardèrent en coin pour évaluer le poids des ans, puis éclatèrent de rire. Charles parut s'ébrouer sortir d'un rêve. Il oublia le temps et raconta tout ce qu'il avait traversé. Nasenael trouva en Charles-Pierre un auditeur attentif. Pourtant, très vite, il abrégea son récit. Par pudeur, bien sûr, mais aussi par crainte, en s'adressant au plus cher témoin de sa jeunesse de réveiller il ne savait quoi. Charles s'était déjà depuis longtemps un peu de lui-même, et ce qu'il avait appris de lui-même l'incitait à la prudence. Quand il connut Augustin, il fut séduit tout de suite par l'économie de ses gestes et de ses paroles. Augustin s'éprit de ce vieillard dans les yeux duquel une lueur avait passé. Trois Romains y lui fit connaître la brasserie des bords du Rhin. Ils y allaient le soir. L'atmosphère y était différente. Les clients étaient moins nombreux, la pendule plus sonore. On n'avait plus de mal à la quitter, à retrouver le pavé derrière la porte tambour et toute cette vie abandonnée au temps. Vois-tu, Augustin, j'étais assez heureuse en Égypte. Enfin j'étais seule et même mon nom ne signifiait rien pour les pauvres gens qui m'entouraient et aussi pour les autres, plus évolués. De la baraque aux caisses que j'habitais avec ton père, les pieds dans le sable, je voyais le canal avancer au loin. Charles est parti trop tôt. Il n'a pas vu comme c'était beau, ces deux pans presque verticaux coupés à même le sable et plongeant vers le mince filet d'eau, en bas tout au fond, qui devait transporter les vapeurs. Je comptais en partie double, je classais, je rangeais, enfin j'étais un peu utile et j'échappais à cette suffisance héréditaire dont je sentais bien, quand j'étais en France, qu'elle finirait par me gagner comme elle avait gagné les autres, qui avant moi avaient été peut-être jeunes et sensibles. Depuis le départ de ton père, je n'allais plus dans le désert. Mes rêves n'étaient plus accordés à la majesté du paysage. Ils étaient devenus plus doux et plus modestes. Je fumais le narguilé au village et rarement je poussais jusqu'au faubourg du Caire. Je m'asseyais dans les échoppes. Les indigènes à la fin ne m'accordaient presque plus d'attention, je veux dire qu'ils étaient indifférents et respectueux. À intervalles réguliers, l'Essep voulait m'emmener en représentation, au consulat chez le sultan, mais je déclinais tout. Un soir, je me suis aventuré jusqu'à l'hôtel Shepheard's. La lumière jaillissait de partout, descendait en cascade vers la rue noire où attendaient les caouches, et avec eux des ânes, des mendiants, des porteurs d'eau, de simples passants, avec cette immobilité infatigable de l'Orient. Il devait y avoir une fête, à moins que toutes les nuits ce paquebot échoué ne s'éclaira de tous ses feux, comme par principe. Je me suis aventuré jusqu'au pied des marches du Shepheard et je suis parti. Je n'avais nul dégoût de ces spectacles, ils m'étaient devenus étrangers. Enfin, l'Esseps acheva son canal. La tâche n'avait pas été facile. Il y avait eu les Anglais, le désert et l'Esseps lui-même. Il avait fallu flatter Ismaël et satisfaire les lubies des petits seigneurs. Je me souviens d'Abd Ulazi, auquel la compagnie t'avait offert des oiseaux, des chiens et des chevaux, du matériel de cage et de chenil pour monter un jardin d'acclimatation. Et combien de manœuvres, plus de sueurs de couloir que de sueurs de désert, les bagatelles de la porte et les traquenards des Tuileries. Un matin pourtant, la dernière digue s'ouvrit par le milieu dans un jaillissement d'écume, et les eaux de la Méditerranée se heurtèrent aux eaux de la mer Rouge. Ce matin-là, il n'y avait pas d'officiel sur les rives, seulement les CEP lui-même, ses ingénieurs, voisins Bay Laroche, Paul Borel, Lavalet, ton père doit bien se souvenir de Lavalet et deux envoyés du Khedive. Le temps était gris. Superstitieux comme toujours, les CEPs avaient fait consulter les astres avant de décider du moment où la jonction aurait lieu. Puis il y eut l'inauguration officielle, l'impératrice Eugénie, l'empereur d'Autriche, les ambassadeurs et les généraux accourus en foule, les fêtes à Ismaïlia, cette ville jaillie du désert, d'ordre de Lesep pour le plaisir du Khedive, les campements de bédouins le long du canal où s'engageaient les bâtiments à vapeur, et Lesep dans ce décor de magie, planant très haut au-dessus de lui-même. J'ai pensé au début, à notre baraque de bois et à nos caisses, aux recommandations de ma famille, personne ne sait ce qu'il trafique là-bas mais tu verras du pays. Je suis rentré en France, je n'avais jamais été si profondément hésitant, je ne savais plus quel jugement porter sur moi-même et sur ce que j'avais vécu. Avais-je fait mon éducation et devais-je rentrer au pays? Ou bien avais-je commencé une vie d'errance? Je ne savais certes pas dans laquelle de ces voies je serais le plus heureux. Cette question du bonheur, vois-tu, c'était la pomme de discorde entre ma famille et moi. Ce mot n'avait aucun sens pour eux et il était pour moi chargé d'espérance. Je pouvais les comprendre. Après tout, j'aurais aimé me trouver privé aussi de ce goût singulier, être comme eux dans ma vie comme dans une grande boîte au côté peint, sur un mur la religion et sur l'autre la chasse, une grande boîte posée dans l'herbe, et de l'autre côté des...